La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet d'artificialisation des sols. C'est un sujet particulièrement d'actualité, avec notamment le projet de l'A69. L'artificialisation des terres en France est un problème majeur qui altère durablement nos sols. Chaque année, entre 200 et 300 km de terres sont transformées, principalement en raison de construction des infrastructures de transport, des activités économiques et bien d'autres. Ce phénomène a des répercussions graves sur la biodiversité, le climat et la qualité des sols. Les conséquences sont nombreuses. Pour la biodiversité, on a la destruction des habitats. On a aussi l'imperméabilisation des sols qui entraîne des inondations. Bref, il y a plein de problèmes sous-jacents à cette problématique. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet avec notre invité du jour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Oui, donc bonjour, Christophe Dubois. Je suis président de l'association Zone Rurale à défendre à la croisière. Puisque justement, on a un projet d'artificialisation des sols à la croisière, qui est un village situé au niveau de l'échangeur entre l'autoroute A20 et la RN145.
Qu'est-ce que ce projet d'artificialisation ?
Eh bien, Titouan, c'est un projet, on va dire, classique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut créer une zone urbaine, qu'elle soit pour l'habitat ou pour l'activité humaine, en l'occurrence là, c'est de l'industrie, eh bien, on prend des terrains naturels et agricoles et on bétonne. Voilà, classique. Donc là, on a un projet d'extension, une zone d'activité qui est existante, qui existe sur 50 hectares, et on a un projet de doubler cette surface de 50 hectares.
Quelles activités sont réalisées dans cette zone ?
Alors à la base, c'est une zone qui est en lien avec l'échangeur, hein, donc c'est un projet pétrole, comme je dirais. C'est fait pour plutôt de la logistique, plutôt des entreprises qui auraient tendance à avoir besoin du coup des réseaux routiers. Et puis en fait, comme le parc a eu du mal à se développer, on a aussi des activités qui n'ont rien à y faire, comme à Data Center du groupe Picotti. On a aussi un projet de parc solaire, un deuxième projet, puisque le premier projet de parc solaire de 11 hectares sur les 50 hectares du parc, en fait, nous, on l'a fait sauter au tribunal administratif parce qu'il ne respectait pas le document d'urbanisme. On a donc toujours un projet, et puis on va dire que voilà, c'est principalement des activités en lien avec l'échangeur.
Et donc, quels problèmes vont être créés par cette artificialisation des sols ?
Eh bien, tout à l'heure, en introduction, tu as parlé de multiples problèmes. On demande à tout un chacun de réfléchir, en fait, à changer en fait, le monde, non pas par utopie, mais là, en fait, on est face à des défis scientifiques. Le défi, le réchauffement climatique. Hein. Vendredi dernier, il faisait encore plus de 30 degrés en Limousin. À mi-octobre, c'est du jamais vu. 2023 va être l'année la plus chaude au niveau de la Terre. Il y a 40 degrés en Sibérie, des feux de forêt de par le monde. Donc là maintenant, plus personne ne peut nier qu'en fait les activités humaines à l'échelle planétaire en fait, ont dégradé le climat d'une façon importante. L'artificialisation des sols, c'est l'une des actions humaines qui dégrade le plus le climat. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, en fait, elle, en termes de gaz à effet de serre, en fait, elle empêche en fait, le sol de stocker en fait du carbone. On sait aussi que les végétaux, hein, si on prend du coup des arbres, grâce à la photosynthèse en fait, captent le CO2 de l'air pour le transformer en oxygène. Donc en fait, si on imperméabilise des sols, si on détruit en fait les éléments naturels, eh bien on va agir directement sur le climat. Et puis je te parlais d'un projet pétrole, c'est-à-dire qu'en fait quand tu bases une zone d'activité sur le routier, parce que là à la croisière on est loin du réseau ferré, ça veut dire que tout ce qui va être produit où toutes les personnes qui vont venir en fait, à cette zone d'activité vont utiliser en fait, leur voiture. Et au jour d'aujourd'hui, la voiture, c'est d'abord le pétrole. Voilà. Donc en fait, on va augmenter les gaz à effet de serre avec ce projet-là. Dans les modifications climatiques, on a l'eau. On sait que les sols, tu as commencé à en parler tout à l'heure, en fait, les sols, c'est quelque chose qui stocke l'eau, qui régule le débit de l'eau et qui aussi épure les eaux. Lorsqu'on imperméabilise les sols, et bien tout ça en fait on empêche les sols de jouer leur jeu et on dérègle. Là en l'occurrence, si tu veux, on va dérégler sur une surface à terme de plus de 100 hectares, on va dérégler la tête de bassin d'un affluent de la Seine, qui est un affluent de la Gartempe, qui est une rivière bien connue en fait en Limousin. Et alors on va dire oui mais finalement c'est à la croisière, c'est 100 hectares, c'est pas grave, mais non, mais sauf qu'il y en a combien des la croisière ? Pareil d'une autoroute aujourd'hui. Il y a tellement encore de projets d'artificialisation des sols classiques qui ne sont plus souhaités, qui ne sont même plus valables, puisque il y a une loi qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui demande de reconsidérer cette façon de concevoir l'urbanisation.
Et donc pourquoi cette règle n'est pas appliquée en soi ? Pourquoi des projets peuvent encore exister de telle sorte ?
D'abord, cette loi elle est très récente. Je ne suis pas sûr que les décrets aient en fait été votés. Et surtout, les décideurs publics, les élus principalement, n'ont pas du tout compris encore cette philosophie-là. L'humain peut-être le français plus que d'autres. En fait, il faut qu'il soit au pied du mur pour changer ses habitudes. La Loisanne, elle dit quoi en fait ? En substance, elle dit qu'il faut repenser le modèle de développement urbain, qu'il faut repenser la ville sur elle-même, qu'il faut à nouveau investir les friches, les logements vacants, les anciens bâtiments, les dents creuses, c'est-à-dire qu'en fait une zone qui est non bâtie, pour réinventer la ville sur elle-même. Parce que ce qui est autour de la ville, qui n'est pas bâti, eh bien c'est précieux pour l'humanité, et que finalement une ville qui est renouvelée en permanence sur elle-même, elle reste belle, elle reste attrayante. Et beaucoup de paysagistes ou d'urbanistes disent qu'il faut aussi en finir avec cette mode des zones, les zones d'activité, les zones commerciales, les zones pavillonnaires, les zones ici et là, qui n'ont vu le jour que parce qu'il y avait des voitures pour s'y rendre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire jusqu'en les années 50, on le voit bien à Limoges avec l'usine de la porcelaine, les usines étaient à l'intérieur de la ville, pour que les gens puissent s'y rendre en fait à pied ou à vélo. C'est qu'à partir des années 70 et surtout 80, on a toujours étendu de plus en plus loin les villes. Et Limoges, plus tardivement que les autres, mais contrairement à ce qu'on croit, la Haute-Vienne en fait est l'une des régions qui a dans les décennies, la décennie passée, le plus consommé de terres agricoles.
Donc qu'est-ce que vous mettez en œuvre avec votre association pour défendre cette zone ?
Alors, qu'est-ce que t'aurais fait, toi, Titou ? D'abord, si tu veux, cette association, elle s'est constituée en 2016, parce que là, les propriétaires, les exploitants, ont reçu une offre d'achat de leur terrain sur 74 hectares. 74 hectares, c'est 740 000 mètres carrés. C'est important de faire cette transformation d'unité de surface. Contrairement à la mise en place de l'autoroute dans les années 80 et lors de l'établissement de la première zone d'activité dans les années 90, tout début 2000 en fait, bah du coup des riverains, des propriétaires exploitants se sont fédérés au sein d'une association, déjà pour se mutualiser qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce qu'on fait après. Et en 2016 en fait, par cette démarche-là, on a cristallisé en fait, personne n'a vendu de terrain. Parce qu'il faut savoir, Titouan, que lorsqu'un promoteur veut s'implanter quelque part, la première chose qu'il fait, c'est qu'il achète des terrains à l'amiable. Et qu'une fois le loup est rentré dans la bergerie, c'est un argument de force pour étendre son projet. Alors, on pourrait dire le loup dans la bergerie, ou on pourrait dire la métastase dans un corps. C'est-à-dire qu'une fois que tu implantes en fait un projet industriel dans une zone naturelle agricole, eh bien en fait on a un cancer qui tend à se développer. Donc comment, quel médicament, quel traitement on fait nous ? Après cette phase de prise de conscience, eh bien il y a deux types d'actions qu'on fait. D'abord, on essaye d'exister en tant qu'association, une association qui défend la ruralité. Donc on essaye de créer des manifestations qui créent de la conscience des enjeux agricoles, les terres nourricières, typiquement. Une terre, nourrir la population, c'est vraiment quelque chose de légitime, de très important. Ça a été dévoyé depuis l'instauration de la société de consommation et l'ultralibéralisme, mais donner à manger aux autres, c'est la plus belle des choses. Hein. Donc il faut prendre conscience qu'une agriculture qui respecte l'environnement, une agriculture qui produit, une agriculture qui est répartie sur le territoire, qui remplit les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, c'est très important. C'est pas une activité primaire, dans le terme, c'est pas important, c'est que c'est la première des activités, l'activité agricole. Donc, eh bien, on essaye d'organiser des ciné-débats sur le thème de l'agriculture. Et puis, de la même façon, on essaie d'organiser soit des ciné-débats, soit faire venir des intervenants de qualité pour parler des enjeux de biodiversité, de climat. Le dernier exemple en date, qui mélange agriculture et environnement, on a fait venir le samedi 30 septembre, Philippe Hiroux, qui est le président de AFAC Agroforesterie, qui nous a accompagné toute une journée autour de la haie. La haie, c'est quelque chose qui est très important pour l'agriculture, très important pour la biodiversité, mais aussi très important pour la valeur paysagère du Limousin. Et Philippe Hiroux, qui la veille en fait était en Bretagne avec le ministre de l'Agriculture et le secrétaire d'État à l'écologie, était avec nous le lendemain pour justement nous expliquer pourquoi l'État va faire un plan haie, où il va essayer de faire planter plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de haies. Et c'était un ravissement que de l'avoir avec. Donc voilà, c'est par ce type d'activité, si tu veux, où en tant qu'association, on essaye d'exister. Et on montre aussi à nos partenaires que nous sommes crédibles. Quand je dis les partenaires, ça peut être Limousin Nature Environnement, ça peut être Terre de Liens, avec qui nous travaillons beaucoup, et d'autres associations. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on aille en fait au juridique. Donc en fait, on fait des dossiers au contentieux. Soit lors d'enquêtes publiques, en fait, on participe aux enquêtes publiques. Par exemple, lors d'une enquête publique en lien avec un parc solaire qui devait avoir lieu sur le parc d'activité de la Croisière, et bien, on a participé, comme aux phases d'enquête publique pendant les PLU, les plans locaux d'urbanisme du pays australien, le pays de la souterraine en Creuse, ou bien le PLUI du pays Gartempe-Saint-Pardoux en Haute-Vienne. Et puis quand on n'a pas les conclusions qui sont satisfaisantes au regard des problématiques environnementales agricoles, et bien on va au contentieux. Et c'est pour ça qu'on est allé deux fois au contentieux et qu'on a gagné deux fois.
D'accord. Donc là, vous en êtes où justement dans ce projet d'extension, alors, où en est-il ?
Alors, ce projet d'extension, Tituan, on est parti, si tu veux, pour faire feu de tout bois. Je m'appelle Dubois et je fais feu de tout bois, c'est logique. En fait, si tu veux, quand on a du foncier à vocation économique, il faut l'utiliser avec parcimonie et avec précision. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gaspiller nos ressources, qu'elles soient sous terre, qu'elles soient sur terre, mais aussi les ressources comme le foncier, on ne peut plus gaspiller. C'est-à-dire que moi, je milite pour la protection du foncier rural et agricole et naturel, mais aussi pour la protection du foncier urbain. Je m'explique. Quand on a une zone comme ça d'activité, on essaye de faire en sorte qu'on densifie l'emploi. On met le plus d'emplois au mètre carré. On choisit les activités qu'on y met. Donc un parc solaire n'a rien à faire au niveau d'un échangeur autoroutier. Donc tout ça, si tu veux aller par là, c'est de longue haleine. On essaye d'influer sur les décideurs publics. On a du mal à y arriver, c'est une certitude. Néanmoins, par nos victoires dans les tribunaux, en fait, on démontre que nos arguments étaient valables. Et j'espère qu'à terme, pour le parc solaire, ben, il a sauté. Donc on a rendu 11 hectares à l'emploi. J'espère que les élus en ont conscience. Là, le 28 septembre dernier... si tu veux, ce projet d'extension du parc d'activité de la Croisière, il est à cheval sur le département de la Creuse pour 11 hectares et pour 64 hectares sur le département de l'Haute-Vienne. Donc en fait, on est allé au tribunal sur les 11 hectares creusois en premier, qui étaient classés à urbaniser, 11 hectares à urbaniser pour l'extension du parc d'activité de la Croisière. Et bien, le 28 septembre dernier, le tribunal nous a donné gain de cause et a déclassé ces terrains-là qui sont redevenus agricoles ou naturels. Et on est au contentieux actuellement sur l'autre PLU du pays de la communauté de communes de Gartempe-Saint-Pardoux. Et pareil, j'espère qu'on arrivera à déclasser les 64 hectares prévus pour l'extension, à les rendre à nouveau à la nature et à l'agriculture. Et le projet d'extension, où en est-il ? Eh bien, il en est à sa phase de concertation. Le syndicat d'élus qui porte ce projet-là est en train de faire ses dossiers. Et en fait, nous sommes là, en vigilance, et on est en train, si tu veux, d'essayer de peser par nos actions et par nos actions juridiques et nos actions associatives sur les décisions. Voilà. Là, par exemple, en déclassant les 11 hectares de terrain en creuse, bien, on empêche que ces hectares soient construits. Donc tu vois que là, on agit directement sur le projet d'extension. On empêche que l'extension se fasse là.
D'accord. Et donc, c'est des super résultats. Et comment les gens qui nous écoutent peuvent justement vous aider à continuer cette lutte ?
Alors, du coup, c'est une très bonne question. Alors, notre association s'appelle Zone Rurale à défendre à la croisière. ZRAD à la croisière. ZRAD à la croisière. On a un site internet. On a aussi une page Facebook. Et actuellement, par exemple, on peut adhérer à l'association. Hein. Moi, mon adresse est duboischrist@wanadoo.fr. duboischrist@wanadoo.fr. On peut m'envoyer un mail, hein, je peux donner des coordonnées. Et si on va aussi sur la page Facebook de l'association, il y a en ce moment un appel à participation parce qu'on souhaite faire une expertise sur les zones humides du secteur. Cette expertise, elle est payante, on a besoin de 5 000 euros environ. Et en fait, il y a un financement participatif et du coup, les gens peuvent participer en justement abondant ce financement participatif. Via Hello Asso, tout expliqué sur la page Facebook de notre association ou bientôt sur la page internet.
C'était la chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.